négresse qui danse encore à minuit, dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. La négresse qui danse.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée ce matin par Charlie Clovis. Alors avant toute chose, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2012. En ce lundi, en cette semaine qui commence, en cette année qui commence, j'espère que tout va bien se passer, mieux peut-être. On essaiera de rendre compte ici en tout cas. Alors au programme de ce premier numéro de l'année, eh bien nous sommes le premier lundi du mois, donc on reçoit quelqu'un de la CIMAD. Ce quelqu'un, c'est Cécile Poletti. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez, Cécile, nous parler aujourd'hui du rapport sur les centres de rétention. Premier rapport que vous coéditez avec les 5 associations qui sont avec vous maintenant autorisées à entrer dans ces centres. Vous allez nous en parler. Apparemment, la rétention ne va pas mieux.
Non, hélas, voilà. ça s'empire.
Ça s'empire. Malgré le fait qu'on construise des centres tout neufs, eh bien, ça n'améliore pas les choses. Peut-être même que ça les empire, on le verra avec vous. Mais tout de suite, on commence cette émission en musique.
Getting cold on the side.
s'appelle Island Blues et c'est Coupe qui chante. Et c'est un, voilà, une manière de commencer l'année un petit peu en douceur. On va quitter la douceur tout de suite avec vous, Cécile Poletti. Hélas, vous êtes responsable de la CIMAD Île-de-France. Et vous venez nous parler ce matin donc, du rapport 2010 sur la rétention donc, qui prend en compte tout ce qui s'est passé durant l'année 2010.
Oui.
Hein, c'est ça.
Ce qui est très important, c'est de dire que donc, ce rapport a été fait par plusieurs mains, puisque c'est toutes les associations qui désormais travaillent en rétention, qui ont dépassé le risque de la concurrence et qui ont permis d'aboutir à ce rapport qui permet vraiment d'avoir une vision globale de la rétention sur l'année 2010, sur tout ce qui se passe et dans les centres de rétention en métropole, mais également en Outre-mer, et également dans les locaux de rétention où nous sommes. Peu, mais dans quelques-uns où nous sommes.
D'accord. Alors, juste pour qu'on précise, peut-être les auditeurs ne sont pas au courant, on en a parlé ici déjà, mais un local de rétention, ce n'est pas un centre de rétention qui est prévu pour accueillir du public. Ça peut être à peu près n'importe où,
un local. Ça peut être n'importe où, ça pousse un peu comme des champignons. En fait, les locaux de rétention, enfin les centres de rétention et les locaux de rétention sont quand même plus ou moins encadrés par les textes, mais les locaux de rétention, en fait, c'est, je vais donner un exemple concret, ça va être plus simple. C'est-à-dire que quand un étranger se fait arrêter par la police et qu'il n'y a pas de centre de rétention à proximité, ou que les centres de rétention sont pleins, ils peuvent décider de réquisitionner une chambre d'hôtel, par exemple, d'en faire un local de rétention où l'étranger sera placé pendant un certain nombre de jours avant d'être transféré dans un centre de rétention. Donc, ce qui est très, très ennuyeux, c'est le moins qu'on puisse dire pour les locaux de rétention, c'est que le regard de la société civile a beaucoup de mal à y rentrer, puisqu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils sont forcément créés. Vous avez quelques locaux de rétention qui sont permanents, donc c'est dans ces locaux-là où des fois nous pouvons entrer et puis assister les étrangers qui y sont au regard de leurs droits, mais sinon c'est extrêmement compliqué. Donc il y a plein de personnes qui passent par les locaux de rétention que les associations ne voient pas, et où du coup d'ailleurs en termes de chiffres, enfin je donnerai quelques chiffres, il y a certains chiffres où on ne peut pas les comptabiliser, les éloignements qui se font par les locaux de rétention puisque nous n'y sommes pas.
Mmh, d'accord. Et donc, on ne peut pas savoir si ça a été fait dans des conditions d'accès aux droits normaux ou pas.
Oui, les droits peuvent être complètement bafoués. Déjà qu'ils sont bafoués dans les centres de rétention où nous sommes, dans les locaux de rétention, ils peuvent être totalement bafoués sans que nous n'ayons aucun regard ou témoignage dessus.
Mmh. Alors, rappelons que la CIMAD est donc... parmi ces 5 associations qui maintenant ont le droit de rentrer, vous étiez les seules avant, votre mission, c'est d'informer avant tout les personnes retenues sur la possibilité qu'elles ont de faire un recours, sur les droits qu'elles ont, de passer un coup de fil, etc. etc.
Tout à fait. Il faut juste rappeler que les personnes qui sont en rétention ne sont accusées que du seul fait de ne pas avoir de papier. Je trouve que c'est important.
Oui, elles sont en situation administrative.
Elles sont irrégulières, mais elles n'ont, je veux dire, il n'y a
aucune pas fait de crime,
autre.
A priori.
Non, voilà. Donc c'est une gestion extrêmement pénale de cette situation administrative-là. Et oui, la mission des associations, c'est d'informer, de conseiller, d'assister juridiquement les étrangers, de faire valoir leurs droits à l'intérieur des centres dans la mesure où l'on peut, puisque les droits sont de plus en plus restrictifs et les pratiques laissent à désirer. Et puis également, un deuxième rôle, c'est de témoigner de ce qui se passe dans les centres de rétention. C'est extrêmement important que la société civile, par le biais des associations, et accès à ces lieux d'enfermement pour pouvoir dire ce qui s'y passe, pour pouvoir dénoncer les dérives, voilà, et que ce ne soit pas des camps totalement fermés où le public ne puisse plus du tout voir ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, donnons peut-être quelques chiffres. Alors, en 2010, combien de personnes sont passées par ces centres de rétention?
60 000, il faut savoir, 60 000 personnes. C'est très éloquent quand on regarde la carte de la France et de métropole quelques années auparavant et maintenant. Les centres de rétention, et même de l'Europe hein, d'ailleurs, donc les centres de rétention augmentent, enfin, il y en a de plus en plus et surtout ont grossi. Et le nombre d'étrangers, pour vous donner une idée, en 11 ans a doublé. C'est-à-dire que voilà, on a doublé le nombre de personnes qui sont passées par les centres de rétention. On a doublé également le nombre d'interpellations. Mais alors ça, c'est en 5 ans. On est passé à 64 000 interpellations en 2004, à 96 000 en 2009 d'étrangers en situation régulière. C'est absolument énorme. Et également une multiplication des gardes à vue. On passe de 50 000 en 2004 à 74 000 en 2009. Il faut savoir, voilà, le nombre de places place aussi a augmenté, ce que je vous disais, de 80% entre 2005 et 2011. Donc on voit qu'il y a vraiment
une volonté politique,
une course aux chiffres et une gestion des étrangers en situation irrégulière de plus en plus par l'enfermement. Mmh. Alors qu'il faut savoir que dans le droit français et dans le droit européen, logiquement, même si maintenant ça nous fait sourire quand on voit ce qui se passe en pratique, mais la rétention, enfin sourire jaune, la rétention est censée être une exception. Mmh. C'est-à-dire que elle n'est là que si on est sûr que la personne ne repartira pas autrement et que dans les cas où vraiment l'administration considère qu'il faut que la personne soit enfermée pour l'éloigner du territoire. Force est de constater que maintenant la rétention est devenue systématique et banalisée. Mmh. Et cela a plusieurs visées. Enfin, c'est pas simplement. Enfin, il y a une obsession du chiffre et des statistiques qui bafouent, du coup, les droits fondamentaux régulièrement. Mais il y a vraiment une volonté, par ce traitement-là, de mettre une image de dangerosité de l'étranger. On l'enferme, d'ailleurs, en général, les interpellations, on les menotte de manière souvent assez humiliante. Les interpellations peuvent se faire de manière assez violente, on pourra en donner quelques exemples. Tout ça pour que la société ait une image de l'étranger sans papier dangereux. Mmh. Et du coup, la rétention qui ne devrait pas avoir une fonction punitive, mais qui devrait être simplement un moyen pour l'administration d'éloigner, donc c'est pas le but premier n'est pas l'enfermement, logiquement, selon les textes, mais l'éloignement, a réellement maintenant une fonction punitive. Et ce qui permet de légitimer les droits qu'on bafoue. En gros, l'étranger est dangereux, ça devient banal de l'enfermer. On peut l'enfermer longtemps, d'ailleurs, puisque la nouvelle loi permet maintenant un enfermement à 45 jours. Et ça permet également de légitimer le fait que, après tout, que l'étranger soit un citoyen de moindre droit, ça ne dérange personne, puisque de toute façon, il est dangereux, il paye. Alors, il paye, on ne sait pas trop pourquoi, le fait qu'on est troublé dans l'entre-soi par l'arrivée de l'autre, de l'étranger.
Mais voilà. Il paye, là, on est le 2 janvier, faut le dire quand même. Il paye parce qu'il fraude aussi. Hein, là, on vient d'apprendre que les très discrètement d'ailleurs durant cette période de fête les fichiers des personnes des arrivées sur le territoire et des sécurités sociales viennent d'être croisés. Ouais. Donc ça permet une plus grande surveillance, tout ça va dans le même sens, c'est pour ça
tout
que je le
fait.
Rappelle
complètement, on essaye pour légitimer dans l'opinion publique tout ce bafouement des droits fondamentaux, des droits élémentaires, ce qui est quand même puis je donnerai un autre exemple avec le pouvoir du juge qui est extrêmement réduit maintenant pour contrôler tout ça. On va dire on légitime le tout pouvoir de l'administration, en effet, en mettant cette image de dangerosité, de fraudeur, en gros de bouc émissaire de l'étranger. Et puis plus on est dans un contexte économique difficile, plus la notion de bouc émissaire est facile à exploiter. Et on essaye de nous faire croire, ça va avec, l'immigration est un problème, est un danger, sachant que, qu'on m'explique pourquoi l'immigration est un problème, est un danger. Enfin,
voilà. Ça, c'est pas encore gagné. Alors, parmi les étrangers, il y a ceux qui ont eu la petite palme, là, en 2010-2011. Il y a quand même les Roms qui ont été particulièrement visés. Explicitement et nommément visé d'ailleurs.
Alors oui, puis en Île-de-France d'ailleurs, on est particulièrement, on est au centre de ça, puisque notamment au centre de rétention du Ménil-Amelot où la CIMADE intervient. Donc les Roumains sont la cinquième nationalité éloignée, ce qui est absolument incroyable, parce qu'il faut juste rappeler aux auditeurs qu'à partir du moment où la Roumanie est rentrée dans l'Europe, éloigner un citoyen européen, c'est pratiquement impossible. On ne voit pas des Italiens ou des Espagnols ou des Portugais se faire renvoyer de France. Donc là encore, il y a vraiment un régime d'exception. Là, pour le coup, pour les Européens les plus pauvres et ceux qui, entre guillemets, dérangent le plus. Oui, il y a eu le discours de Grenoble. Tous les camps démantelés les uns après les autres, extrêmement violents. Et donc, en effet, et la France, d'ailleurs, est menacée, on va dire, par la Commission européenne qui veut entamer une procédure devant la Cour de justice de communauté européenne parce que nous ne respectons pas la liberté de circulation des personnes et notamment par rapport aux Roms, puisqu'il y a quand même une liberté de circulation des citoyens européens et sur le territoire européen. Donc voilà, la France en plus a des pratiques complètement illégales. Il faut rappeler, je suis en train de retrouver les chiffres là, des Roms qui sont éloignés, mais il faut rappeler qu'il y a des reconduites par les biais des centres de rétention, mais qu'il y a également un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle
le retour volontaire,
qui est un retour volontaire, on va dire, un chouïa un peu forcé, puisque bah, la police arrive sur les camps, les démantèle et disent en gros aux personnes qui sont là, vous montez dans des bus, on vous ramène en Roumanie ou vous allez en prison. Enfin, il y a vraiment un chantage et vraiment c'est fait par la force, puisque normalement le retour volontaire, vous avez du temps pour monter un projet, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le retour volontaire, ce qu'on appelle du retour volontaire forcé dans le jargon associatif.
D'autant qu'il y a en plus une nouvelle procédure, je ne sais pas si c'est réellement une loi, mais c'est vrai qu'il y a eu des gens qui étaient des retournés volontaires plusieurs fois, parce que ces gens-là évidemment reviennent. Ça permet de les expulser plusieurs fois, de gonfler d'autant plus les chiffres. Mais avant, ils avaient quand même le droit à un petit pécule quand ils repartaient volontairement. Mais à partir du moment où ils sont repartis plusieurs fois, ils n'ont plus le droit à ce pécule-là.
Non, mais il faut savoir que c'est complètement absurde, puisqu'on est vraiment dans la course aux chiffres. Je rappelle que ça coûte quand même aussi pas mal d'argent aux contribuables, et en effet pour rien, puisque les gens reviennent, hein, puisque même si d'ailleurs la France essaye de forcer la Roumanie à faire passer des lois pour que les ressortissants roumains n'aient plus le droit de sortir de Roumanie une fois qu'ils ont été expulsés, ce qui fait quand même doucement sourire quand on se rappelle de l'époque de la guerre froide où on attaquait les pays de l'Est qui ne laissaient pas sortir leurs ressortissants et que maintenant on pousse certains pays à ne pas laisser sortir leurs ressortissants. Mais il faut savoir que vraiment les Roms sont la variable d'ajustement des chiffres d'expulsion de la politique migratoire actuelle. C'est uniquement pour faire gonfler les chiffres que parce qu'avant que la Roumanie rentre en Europe, c'était les Roms roumains étaient les personnes les plus expulsées du territoire français. Donc on est uniquement là-dedans. Pour faire gonfler les chiffres, trouvons tous les moyens pour continuer à pouvoir expulser les Roms roumains, essentiellement les Roms roumains, mais il y a aussi les Roms de Bulgarie. Essayons de contourner le droit simplement pour pouvoir, à visée électorale, annoncer des chiffres comme quoi les chiffres de l'éloignement n'ont pas baissé. Mais c'est kafkaïen, c'est complètement absurde. Et ça coûte de l'argent.
Ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, c'est vrai que, alors, il y a quand même la CIMAD, beaucoup d'associations dans les centres de rétention en métropole. Il y a ce rapport qui sort. Il y a notamment, il faut toujours les citer, RESF qui font un gros boulot d'alerte, notamment dans les écoles et tout ça. Alors, tout ça, c'est un petit peu près de nos yeux. Et puis, ça indigne quand même beaucoup de monde. Il ne faut pas croire que tous les citoyens sont sensibles aux arguments électoraux, populistes et racistes. Il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Alors, on éloigne un petit peu les pratiques en les délocalisant à l'outre-mer. C'était l'année de l'outre-mer, l'année 2011, l'année 2010 aussi apparemment, puisque c'est, je crois, d'outre-mer qu'on a expulsé le plus de monde.
On expulse, enfin, sur 60 000 expulsions sur l'outre-mer, en gros, c'est à peu près la moitié des expulsions par rapport à la métropole, et c'est essentiellement le centre de rétention de Mayotte. Il faut savoir que l'outre-mer, c'est vraiment un laboratoire où les pratiques les plus indignes sont faites. En plus, il y a un régime d'exception au niveau du droit. Et quand vous allez visiter, par exemple, le centre de rétention de Mayotte, non seulement vous n'avez pas l'impression d'être en France, mais c'est une vraie honte pour la République française. Et on appelle ça d'ailleurs, ils appellent ça le centre, la verrue de la France, parce que tellement c'est vraiment terrifiant. Il faut savoir que le CRA de Mayotte, pour vous donner un exemple, la capacité officielle, c'est 60 places, mais c'est plus du double, c'est 140 personnes qui y sont quotidiennement, donc souvent des personnes qui doivent dormir sur des nattes à même le sol, avec des enfants en bas âge, des problèmes de santé et d'hygiène absolument incroyables. Vous avez l'impression de vous retrouver, mais vraiment au fin fond d'une prison, les droits ne sont absolument pas respectés. C'est pas extraordinaire en métropole, mais en outre-mer, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pareil avec cette course aux chiffres qui est absolument absurde, puisqu'il y a beaucoup d'éloignements où les personnes, en fin de compte, de par les pays d'où les personnes migrent, reviennent assez facilement, puisque, en fin de compte, ils n'ont qu'à traverser un bras de mer, on est pareil sur la course aux chiffres complètement absurde, mais où il peut y avoir des drames humains quotidiennement également.
Donc ça, c'est Mayotte. Il y a aussi, je crois, en Guyane aussi, où c'est assez, assez particulier. Enfin bon, il y a en tout cas beaucoup d'endroits un peu loin de nous. Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir là-bas? Il y a la CIMAD.
Alors, il y a des bénévoles donc d'associations qui, justement... Alors, la CIMAD est présente en Outre-mer. Mm-hmm. Et puis, il y a également des équipes de bénévoles de la CIMAD et d'autres structures qui essayent de rentrer dans les centres. Alors, le gros problème qu'on a en Outre-mer, c'est qu'il y a vraiment une exception juridique, c'est-à-dire que la plupart des gens qui passent dans les centres ou les locaux de rétention ne voient pas de juge et sont expulsés extrêmement rapidement, ce qui fait que on n'a absolument pas forcément toujours le temps de les voir et qu'il y a des choses complètement illégales qui se passent. Des parents d'enfants français, des conjoints de français, des gens très malades qui sont expulsés quotidiennement sans que ni le juge ni les associations puissent faire quoi que ce soit. Puisque quand vous faites un recours contre une mesure qu'a pris l'administration pour vous éloigner devant un juge en Outre-mer, ce n'est pas suspensif. C'est-à-dire que vous pouvez être éloigné avant même que le juge ait jugé, ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que l'administration prend une décision... que normalement toute décision doit pouvoir être contestée devant le juge, et là en gros vous êtes éloigné et le juge peut tout à fait dire ah bah non, cette décision était illégale, mais vous êtes déjà reparti dans votre pays d'origine, donc ça ne sert plus à grand chose. Donc voilà, ce régime d'exception a été validé par le fait justement qu'il y avait beaucoup d'immigration qui passait par l'outre-mer et que par rapport à ce fameux ordre public cette exception se justifiait, ce qui est absolument incroyable au regard des droits fondamentaux des personnes.
Et les juges, est-ce qu'ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils ont des réactions par rapport à ça?
Alors, là, les juges... Alors,
parce que leur pouvoir est quand même de plus en plus vidé de son sens.
Oui, hein. Alors là, les juges ont quand même... Bon, les juges contestent et les juges ont quand même réagi ces derniers temps, puisque la nouvelle loi, ce qu'on a appelé la loi Besson, donc qui est passée il y a 6 mois maintenant, réduit énormément le pouvoir du juge, mais là, sur la métropole et l'outre-mer. Puisque, en deux mots, en gros, quand un étranger est placé en centre de rétention, au bout de 48 heures, il devait voir un juge qui disait si ce placement était légal et si l'administration avait le droit de placer cette personne en rétention et avait respecté d'ailleurs ses droits au moment de l'interpellation, etc. Ce qui sont pas des droits moindres, hein, c'est droit à un interprète, droit à un médecin, est-ce que l'interpellation était légale. Et ce n'est pas un droit moindre parce qu'il faut savoir qu'il y a plus d'un tiers des placements en rétention qui sont annulés par ce juge, qu'on appelle le juge des libertés. Et l'administration, comme elle le dit, hein, d'ailleurs ça a été dit dans les débats au moment du passage de la loi, comme ça l'enquiquiner que les juges viennent casser ces mesures de placement en rétention, plutôt que de faire des procédures plus légales et plus respectueuses des droits, ce qu'on attendrait d'un état de droit, décide d'amoindrir le pouvoir du juge et de donner
un blanc-seing aux policiers qui vont chercher les gens à la sortie des écoles, dans des endroits où ils n'ont pas le droit de prendre les gens,
tout à fait.
Sans leur permettre de téléphoner, sans leur permettre d'avoir accès au moindre...
Et c'est extrêmement grave, et ça concerne tout le monde, puisque ça veut dire quand même qu'on passe malgré tout d'un état de droit à ce qu'on appelle un état policier, c'est-à-dire un état où l'administration proclame ses propres lois et fait en sorte de pouvoir les appliquer sans que aucun juge puisse regarder ce qui se passe, ou en tout cas amoindrir énormément son pouvoir. Et quand on commence à porter atteinte, bon là certes c'est peut-être que le français, on va dire lambda, ne se sentira pas concerné, mais on n'espère pas, mais je veux dire, quand on commence à avoir des atteintes à des droits fondamentaux, à des libertés publiques,
on est toujours l'étranger de quelqu'un.
On est toujours l'étranger de quelqu'un. Il faut savoir que ça peut concerner tout le monde.
Bien sûr. Ça, de toute façon, l'arbitraire, on y a tous plus ou moins été confrontés un jour. Alors évidemment, les gens qui viennent d'ailleurs en France le sont beaucoup plus. Mais enfin bon, je pense qu'il faut défendre les droits de tout le monde. Parce
tout à fait.
On finit toujours par se voir rattrapé par l'injustice. Vous avez évoqué plusieurs fois la santé. Et je crois que quand on est malade et en rétention, c'est deux choses qui ne vont pas très bien ensemble.
Non. Et pareil, au niveau de l'Île-de-France, on a été confronté à énormément de situations en 2010 au niveau de la santé extrêmement, extrêmement grave, puisqu'on s'est rendu compte que certaines préfectures ne respectaient plus l'avis du médecin qui est lié à la préfecture d'ailleurs, hein, un médecin inspecteur de santé publique, enfin maintenant qu'on appelle le MARS, mais je passe sur les sigles, notamment la préfecture de Seine-et-Marne pour la cité, qui décide de passer outre ce que lui permet le droit, mais ce qu'on ne voyait pas avant. Généralement, quand ce médecin qui est lié à la préfecture dit « cet étranger est malade et n'a pas sa place en rétention », c'est qu'il est qu'il est extrêmement malade ou qu'il a des traitements qui sont incompatibles à l'éloignement ou à l'enfermement, ça veut dire qu'il y a un risque de vie hein, quand même, ou d'handicap très grave, et que plusieurs préfectures, notamment la Seine-et-Marne, ont décidé de passer outre et de maintenir les étrangers enfermés ou de tenter de les éloigner, ce qui a fait que la CIMADE a dû passer par le ministère donc de la Santé, de l'Intérieur et donc avant de l'immigration pour que ces étrangers soient libérés. Mais ce qui est absolument incroyable et ce qui montre aussi l'absurdité des pratiques préfectorales qui passent par-dessus des choses extrêmement graves, hein, puisque je le répète, c'est des risques de vie. C'est-à-dire que quand on éloigne quelqu'un où il y a un médecin qui dit, notamment le médecin inspecteur de santé publique, qui n'est pas forcément le plus souple, qui dit qu'il y a un risque en cas d'éloignement
oui, c'est
de
pas
vie,
de la complaisance, ça veut
dire
hein,
qu'on c'est... non, c'est vraiment pas de la complaisance. Ça veut dire qu'on envoie quelqu'un à la mort. Enfin, faut être clair. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas compatible. Et à côté de ce type de cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de santé qui se développent en rétention, d'autres formes de pathologies, notamment donc des, enfin voilà, l'enfermement c'est extrêmement violent, 45 jours c'est long, c'est très long, des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont enfermées aussi longtemps.
En tout cas, on sait qu'en prison, ce sont les premiers jours où il y a le plus de suicides. On peut imaginer que être enfermé en prison, surtout quand on est juste victime de sa situation administrative, ça peut amener à des troubles psychiques terribles.
Enfin. Très fort, avec des déclenchements de dépression. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pu subir des choses assez dures dans leur pays d'origine, qui se retrouvent du coup à revivre des situations difficiles d'enfermement. Donc ça refait ressurgir des troubles psychiques forts. Donc avec des personnes qui commencent à prendre des médicaments dans les centres de rétention ou qui commencent à créer des pathologies liées à la dépression et à des névroses fortes.
Et à l'angoisse aussi, puisqu'on les arrache à une vie, à une famille, à un emploi. Il faut tout reconstruire en sortant,
tout parfois. À fait. Et puis avec des fois des gros risques en cas de retour dans le pays d'origine ou des endroits où on n'a plus rien parce qu'on est parti depuis plusieurs années, même voire 10 ans, et où du coup, en effet, on se retrouve dans des situations où les gens sont où il y a beaucoup d'automutilation, où il y a beaucoup de tentatives de suicide, et plus vous allongez la durée de l'enfermement, plus il y a on constate ce type de choses extrêmement violentes que les personnes se font à elles-mêmes.
Juste un dernier point, parce que vous devez partir, juste sur les mineurs, je crois que c'est ça aussi un petit peu la nouveauté, si on peut dire, c'est que les enfants sont de plus en plus en rétention, eux aussi.
Oui, donc la course aux chiffres n'épargne absolument personne, même les enfants, puisque entre 2004 et 2010, le nombre d'enfants également a doublé. On est passé de 165 enfants à 356, sachant que en 2010, 57 enfants, donc sur 356, étaient âgés de moins d'un an et 210 de moins de 6 ans. C'est quand même donc c'est quand même le seul endroit où on peut enfermer des enfants de moins de 13 ans. Et donc avec cette hypocrisie, puisqu'en fait ils ne sont pas vraiment sujets de droit, ces enfants, puisqu'ils suivent en fait leurs parents. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, c'est presque une mesure respectant le droit familial pour l'administration d'enfermer ces enfants. Et donc en effet, ils sont de plus en plus enfermés. Et je répète, hein, la rétention est une exception. Donc si on devait suivre la logique de l'administration, à partir du moment où il y a des enfants, les personnes devraient être assignées chez eux, mais pas enfermées, pour respecter notamment l'intérêt supérieur de l'enfant. Je voulais citer un témoignage qui s'est passé à Metz pour vous dire, notamment sur une famille interpellée et placée en rétention, pour vous montrer un peu la violence de ce que ça peut être et de à quel point on dépasse tout bon sens, tout droit fondamental, tout respect de l'autre, de l'humain, et qu'on crée des citoyens de moins de droits, ce qui est extrêmement grave, à partir du moment où on veut faire du chiffre pour expulser les étrangers. Donc ça s'est passé au CRA de Metz, et donc c'est une famille géorgienne composée des parents, de la grand-mère et de trois fillettes âgées de 17 et 2 ans, donc les deux aînées étaient scolarisées, donc qui ont été interpellées avec des méthodes brutales dans le centre d'hébergement où elles étaient prises en charge. Donc c'est pour vous montrer aussi ce qu'on disait sur la dangerosité qu'on essaye de mettre sur les étrangers. Là on parle quand même d'une famille avec une grand-mère et trois petites filles
qui sont dans un centre d'hébergement, qui ne vont pas s'enfuir en courant.
Donc 15 policiers quand même, hein, de la PAF, donc de la police aux frontières, sont entrés tôt le matin à 6h30 dans le hall d'accueil, contournant le guichet, et se sont saisis du listing des personnes hébergées. Trouvant les numéros des chambres de la famille, les policiers sont montés dans les étages et sont entrés dans la chambre où les enfants dormaient seuls. La grand-mère venait de descendre déjeuner. Donc ils ont, se sont opposés à ce que l'éducatrice rentre elle-même pour pouvoir réveiller les enfants en douceur. Et les enfants ont ainsi été réveillés brutalement sans comprendre du tout ce qui leur arrivait. Les policiers ont ensuite emmené les enfants sans leurs parents jusqu'au rez-de-chaussée. Puis d'autres policiers sont allés réveiller les parents et les ont emmenés avec la grand-mère qu'ils ont retrouvée dans le réfectoire. Après avoir refusé d'embarquer, la famille a été ramenée, puisque là ils les ont ramenés directement à l'avion. Hein, ils ne sont même pas passés d'abord par un centre de rétention. Donc après avoir refusé d'embarquer, la famille a été ramenée dans le centre et a pu faire valoir ses droits devant le juge des libertés dans la soirée, qui a décidé la remise en liberté de la famille, considérant que la procédure était nulle au motif que l'interpellation au domicile avait été effectuée sans réquisition du procureur. Ça, ça s'est passé en 2010. En 2011, dans la mesure où la nouvelle loi est passée et que le juge des libertés ne va pouvoir intervenir qu'au bout de 5 jours, cette famille aurait sûrement été embarquée de force le lendemain ou le surlendemain sans avoir pu voir un juge. Et là, elle a quand même réussi à faire valoir ses droits parce qu'elle avait réussi à refuser d'embarquer, mais ce qui n'était pas du tout forcément, pas forcément facile à faire, et d'autres personnes qui n'auraient pas pu refuser d'embarquer auraient été embarquées alors même que là, l'interpellation était complètement illégale. Sans réquisition du procureur. Voilà, donc c'est pour montrer un peu où nous en sommes dans l'état de droit actuellement en France.
Ben merci, c'est absolument édifiant. Donc ça, c'est une histoire qui se finit à peu près bien, mais ce ne serait plus le cas aujourd'hui. C'est assez terrible ce que vous nous dites. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce rapport. Ce rapport, je rappelle qu'on peut le trouver et le télécharger, bien sûr, gratuitement, et le lire surtout sur le site de la CIMADE, c'est lacimade.org. Et puis, vous cliquez et il est vraiment très, 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 très vite accessible. Il y a même quelques extracts qui permettent d'avoir les points principaux. Merci beaucoup.
Merci à vous. Politique.
Qui chapelle ou languiment est le souvenir d'une vieille Italie. Est-ce tout fin pour les roumains? Aïe pour un goût de pain, d'esturbar mon coin de revenir. C'est la même temps, pays des moulins, des vieilles ferro tego. Autalia, 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 Autalia. Fulasso che crei su in tre di rai careggi mi vieio cambo tu desanato su un giacchesto teron che me crave la via l'utravai e li suoi consiro su un gi a castanato passo a Italia Autalia, Autalia, Autalia. Allez, Anthony, fais-nous danser. Les ponts viradis, les grues au plantado, les gigants d'espudero de la rouille, de l'agneau que les dévore, d'une l'espère de bramadiso, de sireno, restent frères à l'isuimo et à l'isuobo, qui t'appelle languiment et le souvenir. D'une vieille Italie, est-ce tout fa per il rumego? Hai pogut pas
d'est ou pas, mon cœur de revenir. C'est la mentale, pas des moulons, vers Otago, à Outalia. À Outalia.
Le groupe Nayas des Marseillais, ou en tout cas ils sont de Port-de-Bouc je crois, et ça me plaît beaucoup. Autre chose qui me plaît beaucoup et qui va dans le sens de ce que nous disait Cécile Poletti il y a quelques instants, un sens de la persécution de plus en plus grande des gens qui sont d'origine étrangère ou étrangers sur le territoire français, et bien même ceux qui ont la bonne idée de se marier avec un ressortissant français sont persécutés et sont vraiment... traité de manière assez bizarre et de façon très intrusive par les autorités françaises. C'est ce que montre Nicolas Ferrand dans un film qui s'appelle Les Amoureux au banc public. C'est aussi le nom d'un collectif Amoureux au banc que vous pouvez retrouver sur le site amoureuxauban.net. Et donc ce film dont vous allez entendre la bande-annonce dans un instant, il sera visible le 12 janvier prochain à 19h30 à la librairie Résistance. La librairie Résistance, je vous en parle souvent, c'est quatre villas Compoint à Paris dans le 17e, métro Brochamp ou Guy Moquet. Et donc c'est l'occasion de le voir, un film particulièrement émouvant dont on écoute tout de suite la bande-annonce.
Et j'ai dit mais vous emmenez ma femme, ça vous regarde pas. J'ai dit mais ça me regarde quand même. J'ai dit vous prenez ma femme, j'aimerais bien savoir où vous l'emmenez.
La police lui a dit ouvrez ou on défonce ta porte quoi, c'est pas nous qu'allons payer.
J'ai vu en fait l'homme qui allait devenir mon futur mari se faire tabasser par deux agents.
Entre eux, ils se disaient, dans le bureau, encore un mariage en blanc.
On m'a laissé le temps d'aller chez moi, de préparer quand même une valise. Je suis revenu, et puis ma femme, elle est partie avec les policiers.
7h15, ils l'ont cueilli ici. À 17h, il était à 7, et il embarquait dans le bateau qui l'emmenait à Tanger.
De faire en sorte qu'on reste chez nous, qu'on soit pas là, parce qu'on n'a pas à être là, qu'ils veulent pas de nous.
J'ai 40 ans, je ne suis pas marié à la légère. Tu peux marier comme un gosse à 18 ans qui fait des erreurs.
Ils arriveront même à un moment où ils vont demander à installer des caméras de surveillance dans les domiciles des couples mixtes.
Le plus vite de Dieu a commencé à s'énerver en disant qu'il pouvait tout fouiller dans la maison s'il voulait, que j'avais rien à dire.
Non, c'est grave de rentrer dans l'intimité des gens.
J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir ma femme. Pour moi, ça me coûte tout ça.
Ils ont réussi. Ça, l'administration réussit à détruire les gens.
Voilà, c'est un film de Nicolas Ferrand, donc, qui est aussi sorti en DVD que vous pouvez vous procurer sur le site que je vous citais tout à l'heure. C'est http://amoureuxauban.net, sans les 3 W, attention. Et puis donc, rendez-vous le 12 janvier 2012 à 19h30 à la librairie Résistance, 4 villes à Compoint à Paris dans le 17e, pour voir ce film ensemble. C'est toujours bien de le voir avec d'autres, et de pouvoir en parler après. Ce sera le cas dans cette librairie que j'aime beaucoup, donc le 12 janvier.